un passage dans le livre des Actes des Apôtres. Je voulais rester sur ce thème de l'Église, la réaction de l'Église dans des temps difficiles, parce que cela peut nous fortement nous encourager. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, et à partir du verset 1er, il est question de l'arrestation de Jacques et de l'arrestation de Pierre. Les deux vont être arrêtés. Et le sort de l'un ne sera pas exactement le même sort que l'autre. Donc, Actes, chapitre 12, et verset 1er, nous lisons ensemble. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître, entendez, de le faire mourir. Devant le peuple, après la Pâque, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Amen. Les prisons de l'époque sont certainement bien plus douloureuses que ne le sont les prisons d'aujourd'hui dans nos pays modernes, mais dans d'autres pays, c'est certainement comme cela et sans doute davantage avec des fers, avec des liens qui sont plutôt douloureux qu'autre chose. Alors, les nouvelles sont mauvaises pour l'Église de Jérusalem. Ça se passe pas vraiment bien. Il y a quand même pas mal de difficultés et Jacques vient d'être assassiné. On dit qu'il a été exécuté, mais il n'avait rien fait pour mourir, il n'a pas été jugé normalement, donc il a été exécuté. Et quand il a été exécuté, on a vu que tout de suite derrière, ça a plu. Vous avez vu, il faut remettre, je pense, la souris sur le truc pour que je puisse avancer. Merci, ouais, c'est bon. On a vu que dès qu'il a été arrêté, l'Église a eu peur. Parce que vous imaginez bien que dans l'esprit d'Hérode, il avait à l'esprit la même chose. J'ai tué Jacques, c'est les jeux du cirque. Hein. Ça a fait plaisir à tout le monde. Eh bien, on va faire passer Pierre aussi par le supplice et ce sera formidable. C'est ce qu'il devait penser, sans aucun doute. La réaction de l'Église, elle a été bonne. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont mis en prière. Dès que ça a commencé à chauffer, ils se sont mis en prière. Ça, c'est toujours la meilleure des réactions. La première réaction serait d'être affolé. La première réaction serait de pleurer. La première réaction serait d'être dans une grande détresse. Mais la réaction qu'ils ont eue, c'était de se mettre en prière. Ça a tellement bien marché, ce temps de prière, qu'un ange est intervenu. Si vous lisez le texte en suivant, vous verrez que c'est la nuit qui justement précède l'exécution de Pierre. Ce n'est pas 3 jours avant ou 2 jours avant, puisque c'était pendant une fête que cela, qu'il avait été arrêté. Donc c'est précisément, j'ai envie de dire, in extremis, la veille. C'est durant cette nuit-là qu'un ange vient, le bouscule dans la prison. Il nous est dit que les fers qu'il avait, c'est la photo d'avant, les fers qu'il avait aux mains sont tombés. Et l'ange va lui demander de se lever, il va enfiler son manteau, il va mettre ses chaussures, il va sortir. D'ailleurs, il nous est même dit que même Pierre le suit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Ben, c'est sûr que quand vous savez que vous allez être exécuté et que vous dormez la nuit et que vous voyez sortir, toutes les portes s'ouvrent, les gardes dorment, il n'y a personne qui se réveille, il n'y a pas d'agitation, vous dites si seulement ça pouvait être vrai. Sauf que quand il est dehors, il réalise que c'est vrai. C'est vrai, il est dehors, c'est vrai, il a été libéré. Le rôle de l'Église dans tout ça, c'était de prier, le rôle de l'Église, prier et intercéder. En général, quand ça ne va pas et que l'Église prie, ça crée une unité, il faut le reconnaître. Ça crée un sentiment d'unité, on est plus fort quand on est ensemble. Ça crée une unité, mais ça donne du soutien aussi. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que quand des personnes, des frères et sœurs ne vont pas bien, ils viennent vers l'Église pour dire « aidez-moi, priez avec moi, aidez-moi ». Donc l'idée d'être soutenu, c'est quelque chose qui est nécessaire. Maintenant, quand Pierre se retrouve dans la rue, il réfléchit un moment, il dit « Mais je vais où maintenant ?» Et forcément, il a l'idée d'aller vers l'église. Donc il s'en va vers la maison où il savait que les chrétiens étaient réunis pour prier. C'est exactement comme ça que le texte le dit. Et il va frapper à la porte. Il va frapper à la porte. Vous connaissez l'histoire ou pas? Peut-être pas tout le monde. Hein. Je vais vous le lire. Il est dit ceci. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle n'a pas ouvert, elle a juste écouté. Et elle a dû demander, mais qui est là? Qui est-ce? Et Pierre a dit, c'est Pierre, c'est moi, c'est Pierre. Il n'a pas dû le crier, on est en pleine nuit, c'est un évadé, donc forcément. Et elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. C'est prendre un risque déjà, ouvre, mets-le à l'abri, mais elle n'y pense pas. Elle s'en retourne pour dire, Pierre est devant la porte, Pierre est là, Pierre est devant la porte. Et ils vont lui dire, tu es folle. On est en train de prier pour que Dieu fasse un miracle, que Dieu libère, on ne sait pas comment, hein, franchement, parce qu'il était bien accompagné, Pierre, dans sa cellule. Il nous est dit qu'il était bien gardé, puisqu'ils étaient nombreux autour de lui. Il y avait des sentinelles devant la porte. Il dormait entre deux soldats et on imagine qu'il y avait d'autres portes pour arriver à la sortie. Il y avait d'autres gardes. Donc, il était bien gardé. Mais on prie que Dieu fasse un miracle. Et quand il est devant la porte, on dit « Tu es folle. Tu es folle. » Ça remet sans aucun doute en question notre foi et nos convictions. C'est surtout quand ça ne va pas qu'on voit où en est notre foi, non? Parce que quand tout va bien et qu'on dit « Ah, je me sens, je vais transporter la montagne, je vais aller jusqu'au bout du monde, je me sens fort !» Mais c'est parce que ça va bien. Mais ce serait formidable de dire la même chose quand ça va vraiment pas bien. Là, on mesure la foi. On peut le reconnaître, hein, non? On mesure la foi, certainement dans ce moment-là. Et la foi et leur conviction, ben, laissez à désirer quand même, hein, finalement. On sent qu'ils étaient plutôt fébriles, malgré l'intervention de l'ange. Alors, ils vont lui dire, tu es folle, c'est pas possible. Elle affirma que la chose était ainsi. Et ils lui dirent, c'est son ange. Ils veulent bien concéder qu'elle a entendu quelque chose. Mais il dit, bon, t'es pas folle, mais de toute façon, c'est pas lui. C'est impressionnant quand même. Ils sont prêts à croire en un ange, mais pas en la délivrance de Pierre. Comme quoi, des fois, quand ça nous concerne, on est quelquefois un peu plus fébrile, manifestement. Alors, vous comprendrez, j'imagine comme moi, qu'il priait sans trop y croire, parce que la chose était impossible. Heureusement que l'exaucement n'est jamais lié à notre foi. Sinon, je pense qu'on en aurait encore moins. Eh oui, ne vous en déplaise, on en aurait encore moins. Mais il me semble que finalement, le rôle de l'Église, c'est de dire ce que Dieu est capable de faire. Et c'est là où on manifeste la foi. Parce qu'on va proclamer que Dieu guérit, on va proclamer que Dieu agit, on va le dire, on va le croire du fond de notre cœur. Mais ce n'est pas la foi de quelqu'un qui produit le miracle, c'est Dieu. On est d'accord? C'est Dieu qui produit le miracle. Évidemment, il faut bien que quelqu'un ait la foi pour que Dieu agisse. Mais Dieu peut agir quand il veut, comme il veut. Et s'il devait simplement répondre en rapport à la dimension de notre foi, je vous le dis, on aurait certainement encore moins de choses. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup, on en aurait certainement encore moins. Et heureusement que ce n'est pas la foi qui fait tout, même si je sais qu'il faut demander à Dieu le don de la foi et le don pour guérir les malades et le don pour opérer des miracles. Mais on parle de don, on ne parle pas de capacité. Notre capacité vient de Dieu. Et quand bien même vous recevez une parole, c'est quand même Dieu qui fait le miracle, c'est quand même Dieu qui agit, c'est quand même Dieu qui se manifeste. Alors oui, il faut grandir dans notre confiance et dans cette certitude que Dieu est capable de faire des choses. Mais là, on a la preuve que Dieu l'a libéré, pas parce qu'ils avaient la foi, mais parce qu'ils priaient. Alors on va faire une petite nuance, elle est toute petite. Mais notre rôle, évidemment, est de dire ce que Dieu est capable de faire et d'obéir à ce qu'il nous demande, croire, proclamer et finalement espérer, c'est ce que Dieu nous demande. Il est plus important, frères et sœurs, de rechercher l'approbation de Dieu plutôt que n'importe quelle délivrance. Et je vais y venir, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il est plus important de rechercher l'approbation de Dieu. Est-ce que ce que je vis, tu es d'accord avec ça ou pas? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je suis en train de passer ou pas? Parce que si on ne cherche que la délivrance, on pourrait passer à côté de l'approbation de Dieu. Parce que, est-ce que dans tout ce qui nous arrive, il n'y a pas les intentions bienveillantes de Dieu dans tout ça? Oui ou non? Ben oui, dans tout ce qui nous arrive. Ah, je vous le dis autrement, parce que c'est dit comme ça dans nos versions secondes, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais dans une autre traduction qui explore un peu plus le verset, il est dit ceci, les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Ah, de tout ce qui nous arrive, comme la persécution, comme Jacques qui a été décapité dans sa prison et comme Pierre qui en est sorti. Parce que quand on regarde ça de plus près, ben, il faut reconnaître que tout le monde n'est pas délivré. Parce que quand ils ont arrêté Pierre et que l'Église ne cessait de prier, je pense que quand ils ont arrêté Jacques, l'Église priait déjà, non? Ben oui, et ils n'avaient pas leur chouchou quand même. Donc ils ont bien prié pour tout le monde. Sauf qu'ils ont prié pour Jacques et Jacques, il a été exécuté. Et ils ont prié pour Pierre et Pierre a été libéré. Donc tout le monde n'est pas délivré. Pourquoi? C'est difficile hein, de comprendre la chose, mais la réalité, c'est que la persécution est quelque chose d'inévitable. D'inévitable. Quelques versets. Est-ce que vous regardez avec moi? Ils ne sont pas à l'écran, donc vous devez regarder dans votre Bible. Matthieu chapitre 5 et verset 10. Matthieu chapitre 5, verset 10. C'est dans les fameuses béatitudes de Jésus. Il dira ceci, « Heureux ceux qui sont persécutés, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, bien évidemment, parce que le royaume des cieux est à eux. » Parce que le royaume des cieux est à eux. Un peu plus loin, Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3 et verset 10. Philippiens, chapitre 3, verset 10. Comment peut-on dire cela si on n'est pas prêt à le vivre? Il dira ceci, toutes ces choses qui étaient pour lui des gains, il les a regardées comme une perte, dans un seul souhait, dans un seul désir, connaître l'excellence de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et puis, au verset 10, il dit, je veux connaître aussi Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances. Comment pourra-t-on connaître la communion de ses souffrances? Pas juste en contemplant un tableau où on voit Jésus mourir sur la croix en disant « Ah, oh, ça me fait quelque chose ». Ça, ce n'est pas la communion de ses souffrances. Mais les persécutés vivent la communion de ses souffrances. Ah, ils le vivent hein, dans leur chair. Ils le vivent et ils en souffrent. Mais c'était la prière de Paul. Et je pense que vous l'avez déjà lu, ce passage. Donc, vous avez dû dire la même chose. « Je veux connaître Christ. Je veux connaître la puissance. » Mais je veux connaître tout. Et il pourrait y avoir la communion de ses souffrances, même si ce n'est pas une fatalité, bien évidemment. Un peu plus loin, dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3 et au verset 12, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Parce que, tout simplement, on est dans un monde qui refuse la piété et qui va s'opposer à la piété, va s'opposer à nous aussi. Et enfin, un dernier passage dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 4 et verset 12. Notez ces passages, hein, soulignez-les. Ils sont importants. Bien-aimés, première épître de Pierre, chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. On a affaire à des gens qui étaient préparés à la persécution, préparés à la souffrance. Un peu plus loin, là je vais vous les citer, ne les cherchez pas, c'est dans deux lettres de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Dans une lettre, il dira ceci, je vous le cite, notez si vous voulez la référence, 2 Corinthiens 12, 10. « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et il vient d'expliquer, « Je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les outrages, dans les persécutions, dans les calamités, dans les détresses, pour Christ. » Ce n'est pas pour rien, c'est pour Christ. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et puis, il rappelait aussi une autre grande vérité dans sa première lettre, au chapitre 4 et au verset 8 jusqu'au verset 13. Pour résumer, il dit ceci, « Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. » Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Et il dira, nous n'en avons pas honte, car quand nous sommes faibles, Dieu nous rend fort. Vous imaginez ? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ces vérités ? Vous êtes d'accord avec ces vérités ? Si vous êtes d'accord avec ces vérités, nous sommes obligés de reconnaître que c'est quand nous sommes au pire, que finalement, nous serons sans aucun doute plus grands. Ouais. Nous serons plus grands parce que c'est Christ qui se verra au travers de nous. Jean-Baptiste le disait, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Donc au plus je diminue, au plus c'est pire pour moi, au plus il est grand, au plus il s'élève. C'est comme ça que ça fonctionne finalement et on se rend compte que si on est d'accord avec ces vérités, est-ce qu'on est prêt malgré tout à glorifier Dieu comme il le voudra ? Souvenez-vous toujours, frères et sœurs, à qui vous avez donné votre vie. Et quand ça ne va pas bien, là, quand vous êtes en difficulté, est-ce qu'il vous est arrivé de vouloir la reprendre un peu, cette vie-là, en disant « basta, c'est trop, là, c'est insupportable, je ne peux pas, il faut faire une pause ». Ça vous est jamais arrivé ? Si on dit la vérité, ça a dû nous arriver quelquefois. Parce que c'est trop dur. Mais souvenons-nous toujours ce pourquoi nous nous sommes engagés et à qui nous avons offert notre vie. Nous l'avons dit à Christ. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Ma vie, elle est à Christ, elle n'est plus à moi, elle est à lui. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut garder. Alors, en trois points, voyons comment il nous faut résister dans des temps de persécution. Comment l'Église résiste dans des temps difficiles ? Comment peut-on affronter la persécution ? Le premier point qui me semble important, c'est être capable de résister à la peur. Parce que la persécution est inévitable, d'une manière ou d'une autre, ça peut arriver. Quand vous voyez certaines images que l'on a vues tout à l'heure, j'essaie de me mettre à la place de ces deux jeunes garçons à genoux. Ils savent qu'on va les égorger. Qu'est-ce qu'ils pensent à ce moment-là ? On ne les a pas drogués, hein, pour dire « ça fera pas mal comme ça hein. ». Qu'est-ce qu'ils ont subi avant ? Combien de coups ils ont pris ? La torture, ce qui existait pour de nombreux chrétiens encore aujourd'hui, la torture, les privations, résister à la peur. Parce que franchement, quand on pense à ces choses-là, il n'y a personne qui a envie d'y aller. Si on savait le sort qui pourrait nous être réservé, mais plus personne irait en mission. Débrouillez-vous. Hein. Vous avez des fous chez vous, débrouillez-vous avec ça. Nous, on ne viendra pas vous apporter la bonne nouvelle hein, parce qu'on a trop peur. Hein. On n'a pas envie qu'il nous arrive quelque chose. Mais tous les jours, quand on se réveille tous les matins, c'est un petit peu ça parce qu'on ne connaît pas véritablement notre avenir. Et finalement, tout peut se précipiter très rapidement. La maladie, l'accident. Je ne sais pas moi, un changement de situation, vous êtes dans la rue, vous parlez de Jésus à quelqu'un, ça ne plaît pas à la personne, elle sort un couteau, elle vous plante. Ça peut arriver, hein. On ne l'imagine pas en France, on ne l'imagine pas, mais ça peut arriver. Donc on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Et si on a peur, ben on ne fait plus rien, hein, parce que la peur, ça paralyse. Hein. Et la peur, évidemment, c'est quelque chose que le diable utilisera sans aucun doute. Dans le livre des Proverbes, il est dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue », sous-entendu de l'homme méchant. La vie et la mort. Et certains ont eu droit de vie et de mort parce qu'ils pensaient avoir le droit et des chrétiens ont souffert et des chrétiens ont été persécutés. La peur ne devrait pas faire mourir des projets quels qu'ils soient et la peur ne devrait jamais orienter nos choix. Ah, je vais plutôt aller par là parce que c'est plus rassurant. Je vais surtout pas aller par là-bas parce que ça fait peur. Hein. Ouais. La peur, ça peut nous paralyser, il faut le reconnaître. Dans l'évangile de Marc, pour vous encourager, je pense que beaucoup se sont appuyés sur cette parole. Évangile de Marc, regardez avec moi, chapitre 13, et à partir du verset 9. Évangile de Marc, chapitre 13, verset 9. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est une bonne nouvelle, ça, hein? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc la peur pourrait nous paralyser. Que Dieu nous garde d'avoir peur au lieu d'avoir peur. Remettons notre vie encore entre les mains de Dieu en disant: Tu sais tout, tu sais ce qui arrivera demain. Je t'ai donné ma vie, je ne regrette pas. Je t'ai donné ma vie, je continuerai à marcher dans tes voies. N'est-ce pas là la meilleure façon de glorifier Dieu? N'est-ce pas là la meilleure façon de le servir? La deuxième chose qui peut arriver, bien évidemment, c'est le découragement. Et il nous faut résister au découragement, ce qui n'est pas facile parce que vous avez choisi la meilleure part, ne l'oubliez pas. On va venir à un texte. Comment peut-on affronter Hébreux chapitre 11? Hébreux chapitre 11, on peut le lire ensemble? Comment peut-on affronter ce texte? Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32. Hébreux chapitre 11, verset 32. Que dirais-je? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, tandis que d'autres furent livrées aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Comment affronter une situation? Certains échappent au tranchant de l'épée et d'autres meurent sous le tranchant de l'épée. Ils ont la même foi, ils ont le même Dieu, ils appartiennent à la même Église, ils appartiennent à l'Église de Christ. Comment résister au découragement quand on voit cela? Eh bien, regardez le chapitre 12. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, mais courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi. Considérez, en effet, celui qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs contre sa personne, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Le seul moyen de résister au découragement, c'est de regarder ces héros de la foi qui ont échappé au tranchant de l'épée ou qui sont tombés sous le tranchant de l'épée. C'étaient les mêmes héros. Certains ont été sciés dans des troncs d'arbres, d'autres ont été jetés en prison et d'autres ont fermé la gueule des lions. C'est complètement impensable et incompréhensible, mais je peux vous garantir que finalement, la persévérance, c'est sans aucun doute l'antidote au découragement. Parce que c'est quand on prend des coups plein la figure et c'est quand on est malmené que petit à petit le découragement s'installe. Au début, on dit « je vais y arriver ». Au bout de quelque temps, on dit « c'est dur, mais j'ai confiance ». Et puis un jour, on dit « j'en ai marre ». Découragement. Découragé. Si vous êtes à deux pas du découragement, si vous êtes en train de sombrer dans le découragement, souvenez-vous de tous ceux qui ont vaincu, malgré les épreuves. Ou alors, ont surclassé leurs épreuves, sont passés au-dessus, Dieu leur a fait grâce. Regardez, soit Jacques, soit Pierre, mais regardez-les, fidèles jusqu'au bout, fortifiés dans la foi, dans les situations les plus difficiles, les plus douloureuses. Et quand vous examinerez ces bien-aimés, vous pourrez dire, j'en suis pas encore arrivé jusque-là, j'ai pas le droit de renoncer. J'en suis pas arrivé comme eux, j'ai pas le droit de me décourager. Et cela vous donnera du courage, sans aucun doute. Devrais-je vous rappeler Étienne ? On terminera avec son exemple. Étienne, quand il est lapidé, il rend témoignage à Saul de Tarse. Et lui, il ne le sait pas. Hein. Mais quand il dit, Père, il va s'adresser à Dieu, ne leur impute pas ce péché. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand il dira, Père, mon Dieu, je remets mon esprit entre tes mains, je vois les cieux ouverts, je vois Jésus debout à la droite de Dieu, c'est fantastique. Il y a quelqu'un qui garde les vêtements pendant qu'on lapide Étienne, c'est Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Je crois qu'il lui a rendu témoignage sans le savoir, hein, non ? Eh oui, s'il avait hurlé à la grâce en disant, je parjure, je renie, faites-moi grâce, je ne veux pas mourir, surtout pas. Paul aurait souri, il se serait moqué des chrétiens en disant, c'est ça le courage ? C'est ça la foi ? C'est ça qu'ils ont ? Et il aurait persécuté davantage encore, sans aucun doute. Mais Étienne a été un instrument pour parler à cet homme-là. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, il est dit, versets 3 et 4, « Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Le découragement, ça vous fait zapper toute cette expérience-là, le découragement. Ça vous enlève toutes ces victoires-là. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas loin de vous décourager, souvenez-vous ce que Jésus disait à ses disciples. On a lu dans un évangile tout à l'heure, « N'ayez pas peur quand vous serez devant les tribunaux, Saint-Esprit parlera à votre place. » Mais dans l'évangile de Luc, il est dit, Jésus leur dit, « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Vous vous rendez compte ? Je vous donnerai une sagesse et une bouche à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister et contredire. Alors, frères et sœurs, résistez au découragement parce que le découragement, c'est le langage du diable. Et le découragement, ça peut produire ou ça peut engendrer la mort. C'est terminé, on renonce, on laisse tomber. Paul a dit, j'ai gardé la foi jusqu'au bout. Vous savez que de tous ces apôtres, il n'y en a pas beaucoup, pour ne pas dire aucun, qui est mort d'une mort naturelle. Hein. Ça, c'est mal fini pour eux quand même. Hein. Même pour ceux qui ont vécu 70, 80 ans hein, et plus. Ça, c'est quand même mal fini. Hein. On les a crucifiés, on les a torturés. Mais ils ont gardé la foi jusqu'au bout. Les épreuves n'ont pas manqué, évidemment. Un troisième point. Résister à la colère, c'est important, parce que il me semble que quand pour Pierre tout va bien, il est sorti, et pour Jacques, mon cousin, mon frère, mon ami, il a été tué, c'est injuste, c'est pas normal. Pourquoi Dieu l'a fait pour lui et Dieu l'a pas fait pour l'autre ? Il était davantage saint, il était réservé à quelque chose de plus grand. Je crois même pas qu'il y ait de différence entre Pierre et Jacques. Pour ainsi dire, devant Dieu, certainement pas. Sauver tous les deux. Et quelquefois, il faut reconnaître que dans nos difficultés, lorsque l'on passe par des temps difficiles, s'installent petit à petit des frustrations. C'est généré par beaucoup d'incompréhension et un sentiment d'injustice en disant « c'est pas juste, c'est pas normal ». Comment expliquer, j'ai mis ça entre guillemets, hein, ces différences de traitement ? Pourquoi certains meurent à 20 ans et d'autres, chrétiens, persécutés, tués, assassinés, maltraités dans plein de pays dans le monde. Et pourquoi d'autres vont vivre jusqu'à 90 ans sans problème ?
Jamais malade, pas de cancer, pas de mort inopinée, d'accident de la route, etc. Tout va bien. Ça peut paraître très injuste. Il faut le reconnaître. Hein. Ça peut paraître très injuste. Ce qui est certain, c'est que c'est complètement impossible à expliquer. Vous ne pourrez pas l'expliquer. Si vous essayez, vous allez tomber dans la colère sans aucun doute, parce qu'on ne peut pas expliquer cette différence de traitement, je le disais, Jacques et Pierre. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est flagrant. Ils échappent au tranchant de l'épée, et deux versets plus bas, ils passent au fil de l'épée. Ils sont morts par la même épée, finalement, par le même sort. L'un s'en sort et l'autre meurt. Frères et sœurs, quand la colère monte, quand l'injustice vous agace, quand vous êtes pas bien au-dedans de vous parce que vous dites « j'en peux plus, c'est pas normal, mais qu'est-ce qui se passe ?» Je vous en prie, souvenez-vous, comment est-il possible de douter de l'amour de Dieu à notre égard ? Je ne douterai jamais de l'amour de Dieu à mon égard. Est-ce que vous en doutez, vous ? N'en doutez jamais de l'amour de Dieu à votre égard. Je ne douterai jamais de la bonté de Dieu à mon égard. Même s'il y a de la persécution, même s'il y a de la souffrance, ça ne change rien, ça n'enlève rien à la bonté de Dieu. Et puis, comment douter que Dieu désire notre bonheur ? Avec les images que vous avez vues tout à l'heure, vous dites le bonheur, ils n'ont pas vécu un moment de bonheur. Hein. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voulait pas leur bonheur. Ça veut dire que Dieu avait décidé qu'il le glorifierait de cette manière-là. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la délivrance qu'il faut chercher, c'est l'approbation de Dieu. Parce que certains ont été délivrés, mais Dieu n'a pas approuvé parce que ce n'était pas le meilleur chemin qu'il avait choisi. Par contre, d'autres ont accepté l'opprobre et la difficulté parce que c'est l'approbation de Dieu qu'ils voulaient. Dans la vie ou dans la mort, ils ont cherché l'approbation de Dieu. Les pensées de Dieu sont évidemment bien au-dessus des nôtres, non ? Les voies de Dieu, ce n'est pas les nôtres. Parce que franchement, si j'avais été à la place de Dieu, moi, j'avais trouvé beaucoup plus de raccourcis qu'il n'en a trouvé pour moi. Ah, c'était plus simple. Sauf que ces voies ne sont pas les miennes. Mais j'aime marcher dans ces voies quand même. Et il me semble qu'il nous faut garder ceci à l'esprit. Ces voies sont des voies agréables, dit le livre des Proverbes, et elles ne sont pas les nôtres. Alors, comment trouver une nécessité, par exemple, dans la souffrance de Job? Ce n'est pas une question de nécessité. Il ne faut pas essayer de trouver une explication. C'est arrivé. Job, il n'a rien demandé. Tout lui est tombé sur la tête. Alors, tout le ciel lui est tombé sur la tête pour terminer à la fin à retrouver au double de ce qu'il avait. Et entre nous, on se dit, mais ça a servi à rien parce qu'il y a eu des dégâts. Hein. Il a perdu tous ses enfants. Et ils sont morts. Il ne les a plus. Hein. Ils ne sont pas ressuscités, ses enfants. Dieu lui en a donné d'autres, mais les premiers sont morts. Alors on se dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette nécessité? Pourquoi fallait-il que Job passe par là? Est-ce que le détour n'a pas coûté trop cher? Ça peut faire monter la colère, de tels raisonnements, de telles pensées. Frères et sœurs, seul moyen de résister à la colère, c'est de se souvenir ce que nous avons confessé. On le lit ensemble, il y a quelques versets encore. Galates, chapitre 2, verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. Vous avez vos Bibles ou un smartphone, quelque chose? Allez, ça va aller vite. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Vous voulez le dire? S'il vous plaît, je vous le fais rarement, ça. Allez-y, j'ai été crucifié avec Christ. Écoutez bien ce que vous venez de dire. Écoutez bien ce que vous venez de dire. Parce que quand Jésus a été crucifié, ça n'a pas été rigolo. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Et vous acceptez de vivre le même sort. J'ai été crucifié avec Christ. C'est ce que Paul a dit. C'est ce que Paul croyait. Et il insiste, hein, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut qu'il croisse et que je diminue. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 et 16. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 et 16. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés.
et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, et aux autres une odeur de vie. Qui est suffisant pour ces choses ? Je me souviens, et ça m'a marqué, hein, avoir utilisé ce passage lors d'obsèques. Un homme qui était mort à 32 ans, qui laissait son épouse et son fils de 2 ans derrière lui, 3 ans derrière lui. C'est injuste. Et quand vous êtes devant des situations comme ça, un jeune qui venait de donner sa vie à Dieu un an auparavant, toxicomane, perdu humainement parlant et physiquement, malheureusement atteint par la maladie, mais il a donné son cœur à Dieu. Et quel témoignage, des dizaines de leurs amis sont venus à l'église, ont entendu l'évangile, et puis il est fauché comme ça, il s'en va. Et vous ne pouvez dire qu'une seule chose, qui est suffisant pour ces choses ? Il n'y a que Dieu qui est suffisant pour tout ce que l'on traverse. Et Paul avait conscience de cela. Et il dit aux uns, nous sommes une odeur de vie par l'intervention de Dieu miraculeuse, et aux autres, ce serait une odeur de mort à ceux qui refusent la grâce. Mais que je vive ou que je m'en aille, il faut que ce soit une odeur de vie qui se propage, une odeur de vie qui demeure. Et enfin, dans l'évangile de Marc, ça aussi, c'est un incontournable de la marche avec Dieu, évidemment. Marc, chapitre 8, verset 34. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » On peut comprendre les chemins que Dieu nous fait passer au travers de cela. Enfin, il y a une parole extraordinaire, c'est la fin. Dans l'Apocalypse, il est dit « C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. J'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Frères et sœurs, en donnant votre vie à Christ, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix. Quoi qu'il arrive, vous avez fait le bon choix. Alors, vous ne pouvez pas passer à côté de cette vie-là. Vous avez, pour ainsi dire, investi pour l'éternité, hein, puisque vos œuvres vous suivront. Votre place, elle est réservée là-haut dans le ciel. Jésus a dit qu'il a été vous préparer une place là-haut dans le ciel. Alors, quoi qu'il arrive, ne cessons pas de prier. J'en reviens à Pierre, emprisonné, l'Église ne cessait de prier. Pour résister au découragement, pour résister, comme on l'a dit, à la peur et pour résister à la colère, rien n'est meilleur que la prière. Il faut prier, toujours, jamais cesser de prier. Pourrais-je terminer avec Étienne, quand je pense à Étienne, qui a été jugé et lapidé de façon atroce? Je me dis quand même qu'il est sorti par la grande porte. Hein. Parce que juste avant de mourir, c'est ce qui les a rendus furieux d'ailleurs, et ils l'ont achevé après qu'il ait dit cela. Il nous est dit que Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est pas beau comme vision, ça ? Et il va le dire. « Voici, je vois les cieux ouverts. » Et le Fils de l'homme, debout, à la droite de Dieu. Ils ont poussé des cris, ils sont précipités sur lui, ils l'ont traîné hors de la ville, ils l'ont lapidé. Et la Bible dit que lui, il s'est endormi. Mais il est parti par la grande porte, hein ? Non ? Et je voudrais qu'on parte tous par la grande porte, si le Seigneur tarde, qu'on s'en aille tous par cette grande porte-là. Jésus debout, on l'a souvent dit, prêt à accueillir son serviteur, la gloire de Dieu, qui se manifeste dans les pires temps, pire moment de persécution. C'est toujours ce qui arrive à l'Église persécutée. Quelqu'un a dit que dans le meilleur, elle faisait le pire, et dans le pire, elle faisait le meilleur. Dans les pires conditions, elle fait le meilleur. Dans les meilleures conditions, elle ne fait rien. Elle ne fait pas ce qu'il devrait. Elle ne fait pas ce qu'il faut. Alors que Dieu nous aide à faire toujours le meilleur dans le pire et de faire le meilleur dans le meilleur. D'accord ? On ne veut pas faire le pire dans le meilleur. On ne veut pas se relâcher. On veut être zélé. Frères et sœurs, pour affronter la persécution, il ne faut jamais cesser de prier.
Amen. On se lève ensemble et on invoque Dieu. Amen. C'est le moment, frères et sœurs, de vous remettre en question, si besoin, parce que vous vous êtes lassés, vous avez été découragés, vous n'avez plus envie d'avancer, et sans doute que ce que vous avez vécu était difficile, était dur, mais à comparer de ce que cela pourrait être demain, je crois qu'il est bon de reconsacrer sa vie à Dieu et de tout lui remettre, d'accepter ses plans. Je cherche son approbation, pas simplement la délivrance, son approbation d'abord, et après il fait ce qu'il veut. Il est bon, il est puissant. Mon rôle, le rôle de l'Église, c'est de croire, c'est de prier, c'est d'intercéder, c'est de demander. Et le rôle de Dieu, c'est de faire que sa gloire se manifeste.